Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Salut tout le monde.
Et de Pixel.
Ça va clash buzzer aujourd'hui.
T'as vu un peu? Au sommaire de l'actualité, cette semaine, nous vous parlerons du nouveau jeu des créateurs de Faster Than Light. On enchaînera ensuite par un certain Katana Zero. Nous parlerons de Fallout 4 et d'un de ses modes. Nous évoquerons ensuite Final Fantasy 15 sur PC. On parlera également de la magie du droit d'auteur. Vous allez voir, c'est magnifique. Nous évoquerons également Valve qui revient à la charge sur les modes payants. Et enfin, nous terminerons avec la fermeture de Greenlight. Et oui, Valve a décidé de revoir complètement son système. On verra ce que ça signifie tout à l'heure. Sans oublier, et oui, il est là, enfin, notre jeu du moment. Notre jeu du moment, c'est un jeu d'horreur. C'est le 7e épisode d'une saga légendaire, n'est-ce pas? C'est Resident Evil 7. Voilà, voilà. Auquel Pixel et moi, on a pu jouer et qu'on a fini tous les deux. On vous en parlera plus en détail tout à l'heure. Allez, on commence, messieurs, dames, par Into the Breach. Alors, qu'est-ce que c'est Into the Breach? Bah, c'est le nouveau jeu des créateurs de Faster Than Light. Et plus précisément, c'est un RPG tactique. Alors, vous allez me dire, tiens, un RPG tactique, t'es gentil, il y en a plein. Ok, d'accord. Quoique, il n'y en a pas tant que ça, déjà. Et ensuite, un RPG tactique où tu peux utiliser le décor pour péter la gueule aux ennemis. Moi, j'ai jamais vu ça. Donc, écoute, je prends. Et quand je dis pour péter la gueule aux ennemis, c'est par exemple, imaginez, vous voyez, il y a un barrage au loin, vous pétez la gueule au barrage, il y a la flotte qui descend et qui engloutit vos ennemis. Voilà, c'est le genre d'interaction avec la map que tu auras dans Into the Breach. Sachant qu'en plus, il y a la musique, c'est toujours Ben Prunty qui avait composé donc les super musiques de Faster Than Light qui est aux commandes. Et ma foi, j'aime beaucoup ce que j'entends, donc j'attends. Pour le moment, je crois pas qu'il y ait de date annoncée. Dans tous les cas, je suis très très intéressé et quelque chose me dit qu'un certain Mordrain l'est aussi.
Et je confirme que la musique est cool. Mais après, est-ce que c'est normal que le jeu ressemble à un jeu Game Boy Advance?
À mon avis, c'est intentionnel. Tu me diras quand tu vois la gueule de Faster Than Light. Alors, c'est vrai que c'est un reproche qu'on pourrait faire au jeu. J'ai rien contre le pixel art, si vous voulez, mais vu tout le pognon que vous êtes fait avec Faster Than Light, quand même, vous auriez pu investir dans des assets qui ont un peu plus de gueule. Surtout que là, si tu veux, c'est un RPG tactique où il y aura des combats contre des kaiju. Alors les kaiju, je rappelle, c'est un peu tout ce qui est Godzilla, tout ça, enfin les monstres géants, quoi. Et je pense que c'est un jeu qui pourrait beaucoup mieux rendre s'ils avaient fait des assets un peu classe avec des gros immeubles et tout. Enfin bref, je pense que ça aurait peut-être pu avoir potentiellement un peu plus de gueule. Mais écoute, du moment que le gameplay suit, moi, je prends déjà.
C'est vrai que c'est le principal, quand même.
On va enchaîner maintenant, mon cher Pixel, avec un autre jeu. Putain, qu'est-ce qu'il a à la classe? C'est Katana Zero.
Ouais, alors Katana Zero, c'est à première vue une sorte de Metroidvania, on va dire, en 2D. Mmh. Sauf que le héros, c'est un samouraï. Et la particularité du gameplay, c'est que tu peux one-shotter les ennemis.
D'accord.
Avec un coup de sabre. Tu peux faire des combos, et il y a des combos qui font la largeur de l'écran, donc tu peux one-shotter plusieurs ennemis d'un coup, avec un coup de sabre. Donc c'est plutôt pas mal, c'est assez sanglant, c'est très coloré, c'est très pastelisé, j'ai envie de dire, mm-hmm. Même si pastelisé, je ne sais pas si c'est très français, mais tout le monde aura compris. La musique, c'est de l'électro, qui est de très très bonne facture, moi j'aime bien.
Ouais, j'adore.
Ça a été composé par un certain Ludovic, alors qu'on doit certainement prononcer Ludovic, qui est apparemment quelqu'un de très très connu dans la musique électro, jeux vidéo, tout ça quoi. Je le connais pas personnellement, hein. Je ne connaissais pas l'existence de cette personne, mais cette personne fait de très bonnes musiques électro, en tout cas dans la vidéo de présentation de Katana Zero que j'ai vue. Le jeu est développé actuellement par AskiSoft, qui est un collectif de développeurs indépendants, donc ça fait plaisir de voir que des indépendants peuvent créer des collectifs et mettre leurs talents en commun pour créer un jeu qui a l'air vraiment très sympa visuellement et au niveau du gameplay qui a l'air vraiment très sympa aussi.
Il y a un petit air de Hotline Miami, je trouve, en vue de côté,
ouais.
En fait.
Ouais, ouais. Bah, surtout peut-être au niveau des couleurs aussi où ça ressemble à Hotline Miami. Ça sort pour l'instant uniquement sur PC. Et ça sortira, enfin, c'est prévu en 2017, sans plus de précision.
Voilà.
C'est vrai que ça fait très Hotline Miami, mais en 2D vu de côté, et même aussi dans la musique, parce que les musiques de Hotline Miami, c'est un peu dans le même style électro.
En un peu moins psychédélique, peut-être, je dirais.
Qui est moins psychédélique, Hotline Miami ou ce jeu?
Ce jeu-là.
Ouais, bah, Hotline Miami, on veut dire, c'était bien parché quand même. Mais, c'est vrai que même au niveau du visuel, je pense au passage dans la boîte de nuit, et c'est vrai que quand tu vois l'image, ça fait vachement penser à ce niveau-là dans Hotline Miami, en fait.
Ouais. Mais par contre, avec des sprites, mais de ouf, quoi. Les sprites sont énormes dans le jeu, et puis j'ai envie de dire, un jeu où tu pourras envoyer les balles avec ton katana, t'as tout de suite envie d'y jouer, n'est-ce pas?
C'est clair que oui.
Tout simplement. Bon, bah écoutez, on surveillera, j'attends avec impatience. Bon, pour le moment, c'est pas annoncé sur console, mais connaissant les développeurs indépendants, n'est-ce pas? Ça viendra quand ils ont un peu de sous-sous pour faire le portage, je pense. Pixel, tu vas garder la parole et on va maintenant enchaîner sur un pack de textures. Parce que j'ai dit mode tout à l'heure, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que ça vient de chez Bethesda, et c'est un pack de textures HD, n'est-ce pas?
Voilà, HD. Et là, les gros PCistes Master Race Gros Bill vont enfin pouvoir utiliser leur GTX 1080 en SLI, parce que, ben, comme tu l'as dit, Bethesda annonce un pack de textures officiel pour Fallout 4, qui est déjà sorti au moment où on enregistre cette émission. Et le truc intéressant, c'est que ça pèse quand même 58 gigaoctets, rien que pour le pack.
Oh putain.
Ce qui est intéressant aussi, c'est la configuration requise, hein, parce que...
Ouais, alors je l'ai sous les yeux, alors je vais vous la communiquer. Alors pour l'OS, c'est Windows 7, 64 bits minimum, 32 bits ça marchera pas. Il vous faut un Intel Core i7 5820K.
Ouais, rien que ça, ouais, le haut de gamme, quoi, oui.
Bah, le haut de gamme, direct, quoi. Pour la carte graphique, attention, là, c'est du PCiste Master Race, hein. Il faut une GTX 1080.
8 gigas de mémoire.
Avec 8 gigas de mémoire vidéo. Voilà. Ou, alors, l'équivalent chez AMD avec la Radeon RX 490 avec 8 gigas de VRAM aussi. Et pour la RAM physique, il faut au minimum 8 gigas de RAM physique et plus vous en avez, mieux ce sera.
J'ai envie de dire, la RAM, c'est standard. Mais le reste, une GTX 1080, ça va l'optimisation Bethesda, non? Non, ok. Voilà. Bon, après, on va pas râler non plus, tu vois, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des textures haute résolution, n'est-ce pas? Le seul truc, c'est que, bon, ils auraient quand même pu prévoir une version, tu sais, intermédiaire pour ceux qui veulent avoir un jeu un peu plus joli, mais qui veulent pas mettre leur PC à genoux non plus, quoi. Ça aurait été sympa. Et apparemment, je vous préviens, par contre, il y a quelques petits soucis d'installation. Enfin, il y a des gens qui ont eu des problèmes, en tout cas. Genre, il y en a, ils n'arrivent plus à lancer leur jeu. Il y en a d'autres. Leur perso, il s'est retrouvé avec des textures cheloues sur la gueule. Ce genre de choses. Donc, bon.
Et juste pour information, la configuration requise, ça équivaut à combien d'euros, à peu près, environ?
Oula, plus de 1000 euros.
Plus de 1000 balles,
sans
largement.
L'écran, sans l'écran, ni la souris et le clavier.
Mais moi, je trouve quand même ça assez ouf que le pack de textures HD pèse 58 gigas. 58 gigas, tu peux facilement faire un autre jeu derrière, quoi.
C'est de la 4K, à mon avis, là.
Et il y a aussi une mise à jour qui va arriver sur la PS4 Pro, qui va permettre sur un écran 4K, en fait, d'afficher le jeu en 1080p. Et après, sur n'importe quel PS4 Pro, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un écran 4K, il devrait aussi avoir un patch qui va améliorer aussi le rendu des arbres, de l'herbe, des objets et des PNJ, et offrir des meilleurs effets lumineux. Après, moi, je trouve ça bien que Bethesda, longtemps après la sortie du jeu, continue à suivre. Ce que je trouve par contre déplorable, c'est le pack de textures HD sur PC, quoi, qui n'a pas du tout l'air d'être optimisé, en fait.
Bon, après, c'est toujours gratuit, hein. On voit pas non plus, tu vois. Ils auraient pu ne rien faire non plus.
Non, mais j'aurais bien aimé qu'ils fassent un truc...
Qui prévoit plusieurs configurations, quoi. C'est-à-dire qu'il y ait celui-là, mais qu'il y ait un truc un peu moins imposant, quoi. Tiens,
voilà, et surtout que les joueurs PC qui ne sont pas forcément équipés du matos dernier cri, quoi, puissent en profiter aussi. Parce que là, j'ai un peu l'impression que c'est réservé à une élite, quoi, en fait.
Mais moi, je le fais pas tourner. Pourtant, j'ai un PC respectable, hein.
En même temps, pour défendre le jeu, de base, il n'était pas très beau.
Ah, mais de toute façon, c'est pas un jeu intéressant, donc...
Non, je suis pas d'accord parce qu'il y a enfin, c'est un peu paradoxal, mais il y a un DLC qui me donne plus envie de jouer au DLC qu'à Fallout 4. C'est le DLC dans le parc d'attractions Nuka-Cola World. J'aimerais bien que le DLC soit standalone, quoi, et que je puisse faire juste ce petit morceau-là. Après, c'est vrai que, d'après le retour, c'est un peu moins développé que Fallout New Vegas, quoi, en fait.
Bah, disons que c'est dans la claire lignée de Fallout 3, en fait, et bon. Je vais pas épiloguer parce que c'est pas les Fallout que j'aime. Voilà, on va faire simple. Et on va passer à la news suivante, n'est-ce pas, mon cher ATH? Et on va parler de ton jeu préféré, pour le coup, hein. Donc, on va parler quel jeu, ATH?
Bah, de mon GOTY des 10 dernières années, quoi. Ouais. Donc c'est Final Fantasy XV qui revient aujourd'hui à la charge avec les déclarations qu'a fait Hajime Tabata à plusieurs reprises concernant la version PC du jeu. Il a dit que si le jeu sortait sur PC, hein, donc pour les Master Race, c'est qu'il supporterait en fait les mods et les quêtes faites par les fans pour la sortie du jeu.
Ah bah oui, hein, faut bien que quelqu'un le finisse ce jeu quoi, merde.
Exactement. Concentrez-vous déjà à finir le jeu sur console, hein, avec tout ce que vous avez promis. Déjà le patch PS4 Pro, on l'attend toujours. On attend toujours que vous corrigez tout ce qui est chapitre 13, etc. Que vous rajoutez un petit peu de scénario, hein. Et puis au final... sortez la version PC définitive avec tous les DLC. Enfin, moi, je trouve ça bien que Square Enix décide d'aller vers le PC et laisser les joueurs bidouiller.
Ah, ben ça, c'est une très bonne nouvelle, par contre.
Ah oui, c'est ça. Ça, c'est toujours une bonne
surtout
nouvelle.
Qu'ils aient une approche aussi ouverte venant de japonais, c'est suffisamment rare pour être noté.
Voilà, je trouve ça cool quand même, tu vois, qu'ils laissent la possibilité aux joueurs de pouvoir bidouiller un petit peu le jeu. Et peut-être que les joueurs font un meilleur jeu qu'ils l'ont sorti eux-mêmes à la base, quoi. C'est-à-dire qu'ils rajouteront peut-être du contenu intéressant, rajouter des quêtes qui sont pas, va me chercher trois grenouilles qui sont planquées dans la forêt là-bas. Donc moi j'aimerais bien voir la version PC, voir ce que ça donne en termes visuels, parce que il a dit aussi que si le jeu sortirait sur PC, il y aurait vraiment un gap technique qui devrait être franchi en fait, et montrer vraiment que le moteur du jeu en a sous le coude. C'est des belles paroles pour l'instant, et donc on attend de vous juger sur pièce comme on dit.
Bon, allez, là on va passer aux news croustillantes de la semaine, n'est-ce pas ? Et la première news croustillante de la semaine, c'est la magie du droit d'auteur. Vous allez voir, c'est... Ouh ! Donc, le droit d'auteur, c'est formidable. Non, je déconne, c'est de la merde. Et la preuve, encore une fois, avec l'Assassem. L'Assassem qui a décidé de casser les couilles à un tournoi amateur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est hors la loi, n'est-ce pas ? Ils ont osé organiser un tournoi où il y avait des platines de jeux qui tournaient, tu vois, et on entendait le son des jeux, et dans le son des jeux, il y a un truc de ouf, tu vois, ça s'appelle la musique. Et l'Assassin, donc, est venu leur réclamer des sous-sous, voilà. Parce que pourquoi pas, hein ? Après tout, même si les éditeurs ne travaillent pas avec l'Assassin, même si les musiques leur appartiennent pas, et même si les musiques venaient... des jeux quand ils tournaient, c'est-à-dire qu'il y avait les bruitages des jeux et tout par-dessus, tu vois. C'est pas comme s'ils diffusaient les musiques seules en plus. Eh bien, ils viennent te réclamer des sous. Voilà, c'est magique.
Enfin, on voit clairement que la débilité n'a pas de limite, quoi. Surtout quand c'est des musiques qui sont directement tirées des jeux, quoi. Comme ça a été souligné dans l'article, la musique n'a pas été diffusée en termes d'OST tournant dans le salon. C'était des sons vraiment tirés d'écrans de jeux. Après, à la limite, on va dire que peut-être que dans la liste de jeux que j'ai pu voir, il y aurait peut-être FIFA qui pose un problème parce qu'il n'a pas de soundtracks officiels. C'est une soundtracks en fait composée d'artistes connus et un peu moins connus aussi, mais c'est une soundtracks, on va dire, avec des artistes qui sont en maison de disques et tout ça. Donc peut-être que à la limite pour FIFA, tu sais, quand t'es dans les menus, et encore, voilà, c'est, je veux dire, maintenant, en fait, c'est quoi le but de ce genre de choses ? C'est qu'on joue à des jeux vidéo. On public et on diffuse pas le son sans être passé par la SACEM. Enfin, moi, je trouve ça scandaleux. Le pire, c'est que c'est une association...
non lucrative.
Et voilà, c'est ça. C'est une association non lucrative. Donc, pour le rappeler, c'est la PAD, donc la Player Association Dijonais, qui a organisé cet événement le 12 janvier 2017. Et la SACEM, ils viennent comme ça, casser les couilles pour... on ne sait pas quelle raison.
Bah, pour l'argent, ATH.
Oui, mais la loi dit que t'as pas le droit de diffuser de la musique, par exemple, dans un lieu public sans passer par la SACEM. Donc, c'est-à-dire que... quelqu'un qui est tenancier d'un bar ne peut pas diffuser, par exemple, la radio, que ça soit Skyrock, Energy ou n'importe quelle autre merde que vous voulez, sans passer par la SACEM. Mais je veux dire...
quelqu'un qui organise un barbecue ne peut pas diffuser de musique sans la SACEM.
C'est ça. Non, mais moi, je veux dire combien de fois je vais chez le coiffeur. Et quand je vais chez le coiffeur, il y a la télé allumée, il y a la musique qui est allumée. Bon voilà, ça c'est jamais vu un mec de l'Assassin se pointer et dire hey, hop, ce que vous faites c'est illégal parce que
tu sais je verrais bien l'Assassin venir emmerder mon Turc qui diffuse de la musique arabe.
Et ce qui est drôle, tu vois, c'est que pour les musiques de jeux, je pense pas qu'ils sont enregistrés à l'Assassin, hein. La plupart c'est des jeux japonais comme Street Fighter, Smash Bros. Voilà, c'est des jeux qui sont, tu vois, techniquement l'Assassin, ils connaissent même pas, ça se trouve. Enfin, ce que je trouve marrant dans la bêtise, c'est que non content de les faire chier à la place de dire bon la musique, vous n'avez pas le droit de la diffuser, soit vous la coupez, soit on ferme le truc. Mais là, non, c'est qu'il laisse continuer l'événement, et après, il réclame de l'argent, en fait.
Ah bah oui, mais sinon, ça serait pas drôle, TH, attends. Faut bien gagner de l'argent, à un moment donné, quoi.
Ah,
merde,
mais c'est vraiment enfin, des creux. Enfin, franchement, en plus de ça, quand je vois le montant de l'amende, c'est 121 € et 13 centimes. Ils font les fonds de tiroir. Juste pour casser la tête, alors que, enfin, je sais pas, c'était un moment convivial et tout, et puis là, ils sont tombés sur eux, comme ils auraient pu tomber sur n'importe qui d'autre. Enfin, si t'enlèves la musique dans un jeu vidéo, c'est plus du tout la même chose, quoi. Et essayer de jouer à Street Fighter sans son, ça va être triste, quoi.
Alors, petite précision, hein. La SACEM, c'est elle qui vient chercher et qui collecte les fonds, mais en l'occurrence, elle le fait au nom de l'ASPRE, alors Société pour la Perception de la Rémunération Équitable. Voilà, c'est un très beau nom, je trouve. Rémunération Équitable, tu diffuses la musique, tiens, on prend.
Et c'est-à-dire que, parce que là, tu sais que vu que c'est des musiques non enregistrées, probablement la SACEM, est-ce que si moi je fais une musique que je crée et que je la diffuse dans un bar, est-ce que j'ai le droit? Ou est-ce que je devrais payer des droits d'auteur? Est-ce que je devrais payer des droits d'auteur pour écouter ma musique?
Oui, c'est ça. Alors, non, mais c'est ce qui est marqué sur le site de l'ASPRE en plus. C'est-à-dire que du moment que tu diffuses de la musique, même si c'est de la musique libre, même si c'est de la musique que tu joues comme ça, théoriquement, ils ont le droit de venir te faire chier. C'est magique, hein. C'est une taxe formidable. Moi, je dis, c'est beau. C'est... Bon, dans tous les cas, voilà, je vous mettrai le lien vers l'article de Next Impact, d'où provient cette news. Je vous laisserai vous forger votre propre avis, n'est-ce pas? Nous, on pense que c'est de la grosse merde, voilà.
Bah surtout quand ils viennent casser les couilles à des gens qui voulaient s'amuser tranquillement.
Voilà, non mais surtout des gens qui font ça bénévolement, qui ont rien demandé à personne, tu vois, Enfin bref.
Mais tu vois, c'est même pas comme si c'était une grande compétition d'e-sport où il y avait là les sponsors. Même dans un truc comme ça, j'aurais trouvé qu'ils cassent vraiment les couilles. Mais là, en plus, là, ils viennent emmerder des gens qui, ça se trouve, ils étaient même pas au courant de cet article de loi là, tu vois. C'est ouais. Des trucs vraiment sortis de nulle part et ils arrivent et bon bah les gars, c'est pas pour péter l'ambiance, mais on va péter l'ambiance. Ok.
Donc Pixel, hein, t'as compris, la prochaine fois que tu organises ton barbecue chez toi dans le nord, là, faut prévenir la SACEM.
Non, chez lui, ouais, il peut parce que c'est une propriété privée. S'il fait son barbecue dans un parc, ouais, avec de la musique, là, c'est interdit. Donc, t'arrêteras d'écouter Maître Gims dans les parcs.
Non, moi, j'écoute Booba.
Bon, allez, on passe à la news croustillante suivante. Vous pensiez que Valve en avait terminé avec les modes payants suite à la shitstorm qu'il y avait eu lorsqu'ils avaient tenté, je crois, c'était en 2015, de lancer les modes payants sur Skyrim? Eh bien, pas du tout. Il se trouve que récemment, Valve a fait une table ronde où il parlait de plein de sujets, dont entre autres un certain Donald Trump et ce genre de choses, voyez-vous, et où ils ont également évoqué leur validité vis-à-vis des mods. Pour eux, en tout cas, c'est clair, net et précis, il faut rémunérer les créateurs de mods. Voilà. Même joueur joue encore, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, très bien, moi sur le principe, je suis pas hostile, mais j'ai l'impression que vous avez toujours pas compris, en fait. Parce que, qu'est-ce qu'ils disent en substance ? On a fait une erreur, on s'est lancé sur une communauté qui était déjà bien établie et tout, du coup ça a foutu la merde. Et t'as l'impression qu'il n'y a eu aucune réflexion vis-à-vis de toutes les problématiques que posait leur idée. C'est-à-dire que, en gros, je crée un mod. Quelqu'un vient reprendre mon mod. Il prend une des features de mon mod, il ajoute à la sienne pour en créer un autre. Quand Valve paye, qui doit-on payer ? Il y a des features à moi dans son mod à lui. Donc pourquoi est-ce que je toucherais pas une part du magot ?
En théorie, ça serait les deux qui devraient toucher de l'argent. Mais le problème, c'est que bah la personne ne peut pas prévenir qu'il a appliqué le mode d'un tel et ainsi de suite. Bon là, ça va parce qu'on va dire qu'il y a deux personnes concernées, mais imaginons il y a 5-6 personnes et que chacun l'autre a fait un arbre. Enfin, ça se trouve l'autre a fait juste parmi les modes des arbres, l'autre il a fait le mode des maisons. Et quel est le prorata en fonction de la personne qui a fait la plus de choses ?
Il y a un arbre qui reprend en main de l'autre, tu vois. Tous les autres, c'est des arbres différents.
Voilà.
Comment t'évalues le pourcentage ? Quel montant tu donnes à ce gars-là ? Et en plus, qu'est-ce qui se passe quand un gars omet malencontreusement de citer les modes qu'il a repris ? Parce que c'est facile de reprendre un mode sans le dire. Hein.
C'est ça.
Et surtout que ça pose d'autant plus problème quand on connaît la non-intervention de Steam dans tout ce qui se passe sur sa plateforme, quoi. C'est-à-dire qu'on sait très bien que Valve ne va rien vérifier.
Valve pourrait mettre à disposition des modeurs une sorte de logiciel qui leur permettrait en fait de signer numériquement tous les fichiers de leur mode. Ils ont juste qu'à vérifier la signature numérique et ils sauront qui a fait le mode. Bon, après, ce qui est plus compliqué, c'est quand quelqu'un emprunte des fichiers d'un autre.
Oui, sans le dire.
Sans le dire, ou même en lui disant. Alors là, comment ça se passe? Qui va signer numériquement? Est-ce que c'est signé au... avec les deux noms, avec les trois noms, ou un seul, voilà, qui va dire, bon, j'ai travaillé sur la texture-là, j'en ai fait 20%, puis il y a une deuxième personne qui en a encore fait 50%.
En plus, tu vois, le fait de signer numériquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, on restreint les modes à Steam?
Bah, c'est ce que Steam veut, hein. Steam veut, ouais, veut tout Steam contrôler.
Voilà, mais ça pose un problème. Moi, ça m'en pose un, en tout cas, tu vois. Ça me pose un souci qu'une plateforme ait autant d'influence, tu vois.
Moi, enfin, si tu veux, dans l'idée... Je trouve ça bien que ils veulent rémunérer les gens qui sont donnés du mal. Ça, sur le principe, c'est une bonne chose, c'est louable. Mais c'est juste dans la manière dont c'est pensé, qui, pour le moment, m'a l'air d'être compliqué d'être applicable, en fait.
Alors, moi, sinon, j'ai une proposition, mais je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde. C'est un bouton donation. Et tu fais genre comme un Patreon, tu vois. C'est-à-dire, tu dis, moi, tous les mois, je veux donner tant à ce mec-là. Parce qu'il y a déjà des modeurs qui font ça, hein, notamment son Nexus. Et les gars disent, écoute, moi, j'aime bien le travail de ce mec, je fais un don. Un peu comme sur Twitch, tu sais, où tu peux choisir de rémunérer telle ou telle personne sur Twitch, etc. Pourquoi ne pas mettre ça en place? Comme ça, tu vois, c'est, entre guillemets, optionnel. D'un autre côté, je pense que pour l'acceptation, parce qu'il faut pas se leurrer, il y a aussi un problème vis-à-vis du public, il y a certaines personnes qui ne veulent pas payer. Bon. Et de l'autre côté, tu payes le modeur pour son travail en général, et pas pour certaines features spécifiques, quoi.
Ouais, c'est ça, parce que en fait, tu donnes si t'as envie. Après, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout envie de payer. Donc, voilà. Enfin, le modding, c'est quand même à la base quelque chose de gratuit, c'est quelque chose de partage. En créant du modding, ils ont pas dans l'idée de faire de l'argent avec, quoi. C'est une grande force du PC, c'est-à-dire c'est le partage, c'est la communauté. On est là pour, des fois améliorer certains jeux, les rendre encore meilleurs, etc., ou les pousser dans ces derniers retranchements. C'est l'esprit communautaire qui prime par rapport à l'esprit de l'argent. Moi, je trouve ça toujours bien. Et ce que, enfin, on voit vraiment que Valve essaie d'avoir la main mise en fait sur ce petit groupe-là, ce petit monde de personnes qui créent du contenu pour les jeux, parce que c'est vrai que derrière, on peut en faire un business.
Et puis, ils voient déjà tout le pognon qu'ils se font avec le workshop sur Dota 2, tu vois, ce genre de choses. Hein. Juste avant de finir, il y avait un autre problème qu'il faut évoquer quand même. C'était la part que prenait Valve et l'éditeur. Parce que, alors je sais plus combien prenait l'éditeur exactement, mais je crois que Valve c'était des 30%.
Il me semble, mais après je sais plus trop.
Bon, en tout cas, disons qu'il y avait une part non négligeable qui était reprise par Valve et l'éditeur. Et moi, ça me pose un problème quand même. Hein. Enfin, je suis désolé. L'éditeur, je ne vois pas pourquoi il gagnerait de l'argent sur un travail qui fait vendre son jeu en fait. Pourquoi est-ce que l'éditeur toucherait du pognon alors que il ne contribue absolument pas à la plateforme Steam? Je veux dire, encore quand c'est, imaginons, c'est Bethesda qui fait ça de son côté, tu vois, il crée une plateforme avec des outils, etc. Là, ça me paraît légitime, tu vois, qu'il touche de l'argent. Mais là, en l'occurrence, pour moi, le seul légitime à toucher de l'argent en dehors du modeur, c'est Valve. Pourquoi l'éditeur toucherait-il de l'argent? Il y a aussi un sujet qui me fait peur, c'est la professionnalisation des modeurs et qu'est-ce que ça induit, quelque part, dans le comportement des éditeurs. Est-ce qu'on va pas avoir de plus en plus d'éditeurs qui vont attendre des modeurs qui finissent le travail aussi, tu vois?
Et il y a aussi une dernière chose, c'est que pourquoi on voudrait changer une formule qui était déjà efficace à la base? C'est-à-dire que les modes marchaient très bien avant l'arrivée de Valve, et que Valve commence à vouloir mettre son nez dedans pour faire de l'argent, ça fonctionnait très bien en fait. Gardons la formule telle qu'elle est actuellement, ça marche très bien, il y a toujours le système de donation pour donner aux modeurs, etc., donc voilà.
Mais pour moi en fait ce qu'il faudrait faire c'est généraliser la donation, c'est tout quoi, voilà. Tu laisses le choix aux gens en fait, c'est ça l'essentiel, c'est, il faut laisser le choix aux gens je pense.
Exactement. Et après, tu vois, il y a aussi des modes. Il y a des modes, tu vas les installer, tu vas dire quand même c'est pas terrible, tu vois. Si t'as pas envie de payer pour ça, tu peux toujours le retirer ou.
Et en plus, il y a dernière problématique, j'ai failli oublier le support. Ça se passe comment quand il y a un mode qui casse ton jeu? C'est qui le responsable? C'est Valve?
C'est Bethesda.
Bonne chance, hein, parce que si c'est, oui, c'est Valve, c'est Bethesda, c'est le modeur.
Voilà, c'est ça.
Et comment ça se passe? Parce que en plus, encore une fois, on connaît Valve, hein, le support, tout ça, c'est pas leur truc exactement.
La politique de l'autruche, ils vous font de toute façon.
Voilà, non, c'est ça. Le truc qui m'agace dans cette interview, si tu veux, c'est qu'ils disent effectivement que ils ont merdé, tu vois, Mais t'as l'impression qu'il y a eu aucune réflexion sur les problématiques qui ont été soulevées à l'époque. Bon, écoute, on verra bien. De toute façon, c'est sûr qu'ils vont revenir à la charge et on verra bien les réactions à ce moment-là. Voilà, voilà, on va continuer avec Valve, hein. Parce qu'il y a un autre sujet qu'on aime bien ici à Game Info quand on parle de Valve, c'est l'immense poubelle qui est devenue Steam. Vous le savez, hein, Greenlight, on n'est pas forcément les plus grands fans, parce que, bon, il se trouve que c'est un système opaque et useless. C'est-à-dire que opaque, on sait pas combien de votes il faut pour qu'un jeu soit validé, tu vois. Et useless, parce que quand tu vois le nombre de jeux merdiques qui sont validés, enfin voilà. Et là, donc, Valve a décidé de remédier à cette situation, n'est-ce pas, hein. Ils ont trouvé une superbe solution, vous allez voir. Alors, Valve s'est dit, ok, on a un problème avec Greenlight, on a décidé que maintenant tous les jeux ils pourraient sortir. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé une solution qui s'appelle Steam Direct. En échange de sous-sous, n'est-ce pas, vous allez pouvoir publier votre jeu sur Steam. Tout simplement. Ouvrez les vannes, c'est parti, c'est génial. C'est beau, hein. Le truc, c'est que pour le moment, on sait pas combien il faudra payer pour s'inscrire. Mais imaginons les frais d'entrée sont trop élevés. Ça veut dire qu'il y a un développeur qui a pas beaucoup de sous, tu vois, il peut pas publier son jeu sur Steam.
C'est ça.
Tu sais, je vois d'ici venir les Kickstarter pour publier les jeux sur Steam. Ça serait magique. Voilà, donc ça y est, Steam va officiellement devenir le Google Play Store. Et ça va être magnifique.
Ouais, mais enfin, moi, je trouve ça dommage parce que j'ai l'impression que ça va encore plus, y avoir encore une plus grande cassure, en fait, entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas payer.
Et puis, non, mais surtout, enfin, ça va être un bordel incroyable, quoi. Enfin, ils ont bien précisé, le seul contrôle qu'ils feraient, c'est vérifier si le jeu se lance. C'est tout. Tout le reste, il n'y a aucun contrôle de Valve, c'est la fête. Du moment que t'as les sous, tu peux sortir un jeu à moitié fini, il n'y a aucun problème. C'est, open bar. Bon, bah écoutez, j'espère que le système de filtre de Valve va être super performant, parce que putain, je pense qu'il y a plein de développeurs qui vont être noyés dans la masse, là. Hein.
Ouais, et puis, j'imagine même pas tous les jeux à tendance fasciste ou ce genre de choses-là qui peuvent passer, tu vois.
Bon, allez, on en a terminé pour l'actualité cette semaine. On va maintenant basculer sur le jeu du moment, et le jeu du moment, c'est Resident Evil 7. Don't lose it. It's important. Family. Resident Evil 7, retour aux sources de la saga Resident Evil. Alors, quand je dis retour aux sources, attention, hein, ce n'est pas un jeu à la troisième personne, c'est un jeu à la première personne, mais vous allez le voir. Mis à part ça, ça ressemble quand même beaucoup à un Resident Evil. Mais avant de commencer, mon cher Pixel, il faut répondre à la question. Ce Resident Evil 7 est-il un vrai Resident Evil au sens canonique, si tu veux, du terme? Est-ce qu'il s'inscrit vraiment dans l'univers Resident Evil?
Alors, mon cher le tyran, ma réponse est oui.
Oui, voilà.
C'est un vrai Resident Evil. C'est bien la suite de Resident Evil 6, on peut dire. On va dire même que c'est quasiment la suite de Resident Evil 1. Puisque ça se passe 15 ans après Resident Evil 1, que ça se passe bien dans le monde de Resident Evil, qu'il y a plein de clins d'œil à l'univers de Resident Evil. Donc c'est bien une suite, mais en même temps, je peux pas m'empêcher de penser et de dire que c'est aussi un reboot du premier, puisqu'on a quand même un contexte qui ressemble beaucoup.
Oui.
Au niveau des décors, au niveau de certaines cinématiques, au niveau de la fin, aussi, qui ouais. ressemble beaucoup à la fin de Resident Evil 1. Pour moi, c'est une suite et un reboot en même temps. C'est un peu le syndrome Star Wars 7, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est exactement
reboot,
ça.
Quand tu dis reboot, ce serait plus en termes de gameplay.
C'est une relecture de Resident Evil 1.
Ouais, ça
mais
sera plus exact.
Tout en étant une suite.
Moi, en ayant fait la démo, j'ai senti un peu cette ambiance, tu sais, la colline a des yeux, ce genre de choses-là. Et je voulais savoir si, avec l'évolution du cinéma d'horreur, peut-être qu'en fait, ça serait le premier Resident Evil qui sort aujourd'hui, ça serait ce Resident Evil-là.
Bah, ça serait Resident Evil 7, ouais.
Alors, disons que, pour être plus précis, ça serait le début de Resident Evil 7. Parce que la fin, vous allez voir, c'est pas tout à fait pareil, en fait.
On va en reparler après.
Voilà. Alors, quel est le MacGuffin de l'histoire, en gros? Vous vous appelez Ethan, vous avez votre copine qui vous a envoyé un message. Elle se trouve quelque part dans un manoir, ça fait plusieurs années que vous l'avez pas vue. Vite, il faut venir la chercher. Voilà. Donc, le MacGuffin est posé, allez sauver la princesse.
Voilà. On ne sait rien d'Ethan, on sait pas qui c'est,
ouais.
On sait pas d'où il vient. On sait pas quel boulot il fait. Comment dire, il y a zéro développement de personnalité sur Ethan. Il y a rien. Ne cherchez pas, chers joueurs qui avaient déjà joué, ou si vous êtes en train d'y jouer, ou si vous allez y jouer, ne vous attendez à rien concernant Ethan. Il y a rien.
Mais est-ce
zéro.
Qu'au moins, il parle. C'est un personnage mieux.
Il parle, oui.
Oui, il parle. Heureusement.
Il parle, mais si tu veux, c'est il est jamais développé, quoi. En fait, tu sens qu'il y a un passif. Mais il est jamais développé.
Et c'est à peu près la même chose pour presque tous les personnages du jeu. Même si les membres de la famille, la fameuse famille...
Que vous avez pu voir dans tous les trailers...
voilà, dans les screenshots promotionnels où ils sont tous autour de la table en train de bouffer des trucs dégueulasses. Tu sens quand même que les développeurs, enfin en tout cas les scénaristes, ont voulu aller plus loin avec la famille, où chaque personnage a vraiment une mentalité différente.
Ouais.
Mais là encore, c'est pas assez creusé. Il développe pas plus.
Bah en même temps, la saga Resident Evil, ça a jamais été connu pour avoir des scénarios très très profonds, quoi.
Ouais, mais là, ils avaient l'occasion de tout recommencer à zéro.
Attention, on ne parle pas de scénario, on parle de personnalité des personnages. C'est d'accord. Pas pareil. Ils sont très bien mis en scène, je trouve, mais c'est vrai qu'ils sont pas plus creusés que ça. Mais est-ce que finalement, c'est pas logique vu la structure du jeu? Est-ce que le jeu laissait la place à ça, en fait, j'ai envie de dire?
Bah en fait, non. D'ailleurs, il y a très peu de dialogue dans le jeu. Très peu de dialogues parlés. Et les peu de dialogues qu'il y a, en fait, j'ai l'impression que ce sont des personnages qui se parlent entre eux, mais presque pour ne rien dire, en fait. C'est comme s'ils se parlaient entre eux, mais en fait, ils parlent à nous, le joueur.
Et c'est plus des dialogues d'ambiance pour moi, en fait. C'est-à-dire un personnage qui te menace. Toutes les parties, en fait, où on entend les personnages parler, c'est plus pour installer une ambiance que pour vraiment raconter quelque chose, entre guillemets. Pour moi, c'est pas forcément un défaut, mais c'est vrai qu'ils auraient pu développer ça. Mais après, comme il y a le côté... sans spoiler l'histoire, mais si vous voulez, est-ce que tu peux développer quelque chose là-dessus? C'est assez compliqué, quoi. Ou alors, il aurait fallu à ce moment-là développer les moments où ils sont un peu plus calmes, etc. Mais ça aurait été assez difficile, en tout cas, je pense.
Bah en fait, dans la série Resident Evil, moi, j'aime beaucoup le premier, parce qu'en fait, dans le premier, l'histoire est assez simple, mais ce que j'avais bien apprécié, c'était en fouillant le manoir, il y avait plein de notes de scientifiques ou de personnes qui travaillaient à l'intérieur du laboratoire et qui laissaient des petites notes comme ça, laissaient dans un journal qu'il allait envoyer à sa fille ou bien une lettre qui était écrite et qui n'était pas encore terminée. Et aussi, dans Resident Evil Code Veronica, il y avait un aspect un peu Hitchcock, avec les personnages qui, tu sais pas vraiment ce qui se passe et tout ça. Et c'est des trucs que, on va dire un peu près scénaristiques que j'avais bien aimé dans la série Resident Evil, parce que ça a jamais vraiment brillé pour moi de ce point de vue-là. Et je voulais savoir si, dans cet épisode 7, est-ce qu'il y avait des notes disséminées ou bien...
Oui.
Parce que moi, j'aime beaucoup ce genre de choses, ce petit détail-là.
Alors, les notes, totalement. Tout le scénario est raconté dans les notes.
Tout ce qui s'est passé avant. Le jeu en lui-même ne te dit rien. Les protagonistes humains, que ce soit les méchants, les gentils, ils te racontent rien. Ou très peu.
Bah, disons qu'ils racontent le minimum syndical pour que t'aies un fil conducteur, quoi.
Voilà. Ouais. Et en fait, si tu veux tout savoir du jeu, enfin, avant le début du jeu, en fait, toute l'histoire, il faut vraiment découvrir toutes les notes et toutes les lire. Mmh. Et il y en a vraiment pas mal.
Ouais.
Et parce qu'il y avait un truc que moi j'avais apprécié aussi, c'était en fait dans le Resident Evil 1, il y avait pas que des notes. En fait, des fois tu trouvais des espèces de cassettes audio, ce genre de choses là. En fait, et là,
oui, ils ont totalement repris ce principe.
Ah, enfin, est-ce que on pourrait comparer ça un peu à tout ce qui est la mode instaurée par BioShock, j'ai envie de dire les audiologues, ou c'est différent?
Non, pour moi c'est différent parce que tu les joues vraiment, quoi. Enfin, c'est
personnages.
Ouais, c'est une vraie partie de gameplay. Et,
oui.
Il y a des cassettes vidéo, je crois que moi j'en ai compté 4 en tout, je crois qu'il y en a que 4.
Oui.
Et ces 4 vidéos là, tu les joues à la première personne. C'est pas Ethan que tu joues, c'est d'autres personnages qui ont eu une histoire avant, généralement le début de, du jeu. Il faut bien regarder parce que ces cassettes-là, en fait, même si elles sont très courtes, elles te racontent pas mal de choses au niveau du scénario, et elles te montrent plusieurs indices, même pour résoudre certains puzzles, parce qu'il y a quand même quelques puzzles dans le jeu.
Et ça, plus le fait qu'il y a vraiment, en général, une ambiance qui s'installe dans ces moments-là. Alors, le seul truc que je reprocherais à ces cassettes, par contre, c'est que il y a des moments où tu dis, mais ils ont filmé ça comment, en fait? Parce que, autant la première cassette, c'est justifié.
La première, c'est justifié.
Parce que tu joues un caméraman, voilà. Tu joues
et
le caméraman.
Il y a rien.
Ils ont quoi, une GoPro sur l'épaule ou
tu comprends pas justifié. En
fait. C'est justifié par une partie pré-artistique, mais c'est pas justifié du tout en fait.
Et surtout que c'est des cassettes à bande magnétique en plus, tu vois. Donc, c'est pas comme s'il y avait la techno pour, t'avais la GoPro, tu vois, pour.
Surtout que le jeu, l'histoire, elle se déroule en 2014. 2015, je sais plus trop.
Et d'ailleurs, tu te dis, mais pourquoi c'est sur bande magnétique?
Tout est numérisé et eux, ils enregistrent encore en VHS. Donc, c'est incompréhensible.
Ouais, alors que, en général, aujourd'hui, tu filmes avec ton smartphone, quoi.
Voilà. Ils ont pas de smartphone.
Vu les situations, tu vois, même s'ils avaient un smartphone, tu te dis, attends, moi, je suis à la place du gars, mais jamais j'ai l'idée de sortir mon smartphone pour filmer ce qui se passe, quoi, tu vois, ça a aucun sens. Bon, bref. Après, c'est vraiment pour pignaler, mais disons que, moi, quand j'ai vu ça, autant sur le début, ça m'a pas choqué, mais quand j'ai vu les mecs qui sortaient de nulle part et tu voyais ce qu'ils voyaient, ça faisait bizarre, quoi.
Ils ont voulu pomper, en fait, sur le succès des films found footage, comme on dit. C'est-à-dire, c'est des films où, comme par hasard, on a retrouvé dans la nature ou dans le désert des vidéos de personnes qui ont disparu. Mais ce que vous allez voir, tout est réel, bien entendu. En fait, tout est faux. Parce que le principe du found footage, c'est que c'est un faux film qui te fait croire que tout est vrai. Parce que tout est filmé de façon à caméra à l'épaule, avec une lumière très très vive sur les personnages, et ça filme en permanence, et ça te fait croire que tout ce que tu vois est réel, alors que tout est faux.
Ouais, mais après,
ils ont voulu intégrer le found footage dans le jeu. Alors ça marche pour la première cassette, mais pour le reste, ça marche plus du tout. Et peut-être que ça a été fait vers la fin du développement, où Capcom a dit, allez, il nous faut du found footage. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça, j'en sais rien. Mais ça se sent clairement que ça a été rentré au chausse-pied.
Par contre, je trouve que c'est des phases qui apportent beaucoup en termes d'ambiance, quoi. Et qui ont un véritable intérêt du point de vue du gameplay. C'est surtout ça
que
je note. Et elles sont toutes réussies. Il y en a pas beaucoup, mais elles sont toutes réussies. Et elles sont vraiment bien foutues. D'ailleurs, on parle du gameplay. On a eu des débats avant que le jeu se lançait. Est-ce que ça sera un vrai Resident Evil d'un point de vue gameplay, etc. Parce que c'est vrai que jusque-là, ce qu'on voyait, bon, ça ressemblait un peu à tous les jeux d'horreur qu'on a vus jusqu'ici, tu sais, à la première personne, tout ça. Mais on se dit, où est la patte Resident Evil?
C'est ça.
Et pour moi, c'est très clairement Resident Evil 1 à la première personne, ce jeu. C'est-à-dire que, pour moi, qu'est-ce que c'est Resident Evil? C'est un jeu de gestion de ressources, en fait, où tu trouves des armes, où tu dois gérer tes munitions, etc. Où t'as un personnage qui se traîne du cul.
qui est très très lent.
Voilà. Où t'as un jeu sur les caméras aussi. C'est-à-dire que dans Resident Evil 1, à la troisième personne, tu sais, ils te mettaient certains angles, etc. pour que tu vois pas certains ennemis qui arrivaient. Ou genre, tu entendais le bruit de l'ennemi qui arrive, mais tu le voyais pas. Tu vois, ce genre de choses.
Ouais, parce que et c'était coupé en fonction du plan. Genre, il y avait un ennemi. Voilà. L'ennemi était derrière la caméra, mais il te le montrait pas. Mais là, vu que c'est à la première personne, comment ils font pour faire ce genre de choses-là, en fait?
Bah, des couloirs très étroits. Le moment, tu sais, où tu vas ouvrir la porte. Mmh. Tu sais, comme dans le premier Resident Evil, où quand tu ouvres la porte, à un moment donné, t'as la main, si tu vois ce que je veux dire.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Saloperie de bête.
Là, ils ont repris cette idée, en fait, mais à la première personne. C'est-à-dire que les moments où tu vas ouvrir la porte, là, il y a un truc qui arrive. Au détour du couloir, tu vas entendre un truc et t'as la trouille d'aller voir ce qui se passe au détour du couloir, tu vois. Pour moi, vraiment, c'est Resident Evil à la première personne. C'est tout. C'est un pur Resident Evil dans l'esprit, quoi. Il y a la gestion des armes, il y a des armes pétées, il y a des puzzles à la con. Alors ça, c'est peut-être pas le truc qui manquait le plus, mais les puzzles à la con, on va dire qu'ils sont suffisamment sympas et rapides à finir pour que ce soit pas un problème, contrairement à certains Resident Evil. Bref, comme disait Pixel, c'est une relecture de Resident Evil, mais dans le gameplay, quoi. C'est-à-dire, on prend le gameplay de Resident Evil, on le colle dans un jeu à la première personne et on voit ce que ça donne, quoi.
Tu as parlé de quelque chose d'assez intéressant là, c'est les puzzles. Et on sait que Capcom et les énigmes, c'est une grande histoire d'amour. Hein. Je voulais savoir si dans ce manoir, il y avait toujours des diamants planqués un peu partout pour aller actionner l'œil du tigre et il faut mettre les deux diamants.
Non, il y a pas ça.
Non, c'est cohérent sur ce point, de ce point de vue là.
C'est cohérent. Cette fois-ci, c'est cohérent.
Les énigmes sont pas un peu tirées de dans ses ou, parce que je me rappelle aussi très bien dans le Resident Evil de Resident Evil 2, dans le commissariat de Raccoon City. Les mecs, ils ont pas des clés hein, pour rentrer dans les bureaux. Ils ouvrent des bureaux avec des putains de rubis, quoi.
Alors là, en fait, il faut des clés pour ouvrir certaines portes. En fait, si tu veux, t'as des portes avec des symboles. Il faut trouver les clés de correspondance. C'est cohérent.
D'accord,
c'est cohérent.
C'est un peu plus logique, quoi.
Bon, par contre, c'est une baraque, c'est le royaume des secrets, quoi. C'est-à-dire que c'est rempli de murs cachés, etc.
Ouais, oui.
Et tu comprends pas trop comment les techniciens sont venus installer les trucs, alors que apparemment, je sais pas, ils étaient déjà un peu zombifia quand ça arrivait. Enfin bref.
Après, c'est un jeu vidéo, donc faut pas chercher à justifier à chaque fois tout, quoi. Sinon.
Mais en tout cas, c'est beaucoup plus cohérent que dans le premier.
Ouais.
Ça, c'est clair.
Ça c'est cool.
Bah, toi, Pixel, je sais pas ce que t'en as pensé, du coup, le gameplay, moi, j'ai trouvé que, ben, c'était un tout cohérent, quoi. C'est-à-dire que c'était très, alors, t'as toujours un personnage qui est un peu mou. T'as toujours ce stress, si tu veux, de, attention, il faut que, par exemple, il y a un boss fight, tu passes ton temps à courir, tu sais, le temps de te retourner, t'as le mec, il est quasiment sur toi et tout, pour lui tirer dessus, je trouvais que moi, le gameplay était très fidèle aux anciens. Ça collait bien avec la première personne, quoi.
Ouais, bah écoute, je vais faire que acquiescer ce que tu dis. C'est vrai que c'est vraiment Resident Evil 1 avec à la première personne, avec un personnage vraiment très très lent, mais c'est voulu, qui sait pas straffer très rapidement, qui sait pas straffer du tout d'ailleurs, qui sait pas sauter, qui sait pas courir vite, qui sait pas se retourner vite non plus, qui a du mal à viser, avec des armes qui sont en général très peu précise, ouais, bah t'as un inventaire, t'as le même type d'inventaire que dans Resident Evil 1, avec pas beaucoup de place, sauf que cette fois tu peux l'upgrader ton inventaire en retrouvant des sacs à dos.
D'ailleurs t'as toujours le système de coffres des Resident
Evil.
Est-ce que c'est les coffres magiques encore qui communiquent entre eux?
Oui.
C'est vrai qu'il faudrait, et un jour il faudrait qu'il m'explique la technologie comment elle marche parce que c'est pas mal.
Ta gueule, c'est du jeu vidéo.
c'est ça.
Et donc t'as la salle de sauvegarde avec, bon là c'est plus une machine à écrire, c'est un magnétophone, et t'as plus de, parce que je me rappelle dans les premiers Resident Evil, tu sais, t'avais le ruban encreur, tu les gardais précieusement pour pouvoir sauvegarder. Là, t'as plus du tout ça, hein. Tu sauvegardes à volonté.
En facile et normal, mais en difficile, tu dois trouver des cassettes audio pour sauvegarder.
D'accord. D'ailleurs, c'est le truc très con, j'ai trouvé, c'est, tu peux pas commencer en difficile tout de suite.
Non.
T'es obligé de finir le mode normal. Parce que moi, je voulais commencer en difficile, tu vois, parce que je me doutais que ça allait être trop facile. Eh ben non, tu es obligé de finir en normal et comme j'ai pas l'intention de recommencer le jeu, ben c'est con.
Bah oui, c'est con, c'est con, laissez le choix, même si vous avez un mode sadomasochiste, laissez les joueurs commencer par ce mode-là s'il a envie.
Voilà.
C'est parce que en général les gens, enfin, ils font le jeu une seule fois. La plupart du temps, on n'a pas le temps de faire les jeux, de recommencer les jeux plusieurs fois. À part si on est des speedrunners, on veut fumer les jeux, ou bien si on a vraiment apprécié un jeu mais de ouf et on veut se le refaire une deuxième fois pour le plaisir. Et ou bien qu'il y a d'autres choix qui nous sont proposés, mais enfin laissez les gens, s'ils veulent jouer en facile, laisse le jouer en facile, s'ils veulent jouer en dur, laisse le jouer en dur, quoi.
Et il y a du craft, hein.
Ouais.
Tu peux crafter plusieurs types d'objets. Il te faut une matière première et un liquide chimique. Et t'as deux types de liquide chimique. T'as le chimique jaune et le chimique rouge. Alors je vais te donner un exemple. T'as une herbe verte. Alors tu peux l'utiliser, l'herbe verte, comme ça, tu peux directement l'utiliser pour récupérer un tout petit peu de vie, mais c'est vraiment un tout petit peu. Ce que tu peux la fusionner avec le chimique jaune, ça te donne un medikit normal, on va dire, que tu peux récupérer un petit peu de vie, mais pas tout. Ou tu peux utiliser la même herbe verte avec le produit chimique rouge, là ça va te donner un super medikit qui va te redonner pratiquement toute ta vie.
Et là, normalement, ATH, ça te rappelle quelque chose.
Ouais, bien sûr. Mais est-ce que c'est un truc qui est omniprésent dans le jeu, ou bien c'est quelque chose qui est assez optionnel, finalement?
C'est quelque chose qui est très présent, parce qu'en fait, c'est tout simplement pour la gestion de l'inventaire. C'est-à-dire qu'il y a des moments, en fait, où tu récupères des objets, tu vois, et comme t'as pas envie de faire des allers-retours, ben, du coup, tu commences à faire du craft pour dégager un peu, parce que tu faisais dans les premières Resident Evil aussi, hein. Il y a des moments où tu voulais dégager un peu de place, et du coup, tu crées des objets, pour dégager la place. C'est Resident Evil 1 dans le plus pur esprit, quoi.
Je me souviens que par exemple, dans Resident Evil 3, tu avais un système aussi de craft d'armes, enfin, de munitions d'armes, genre où t'avais des armes incendiaires, des armes chimiques, et d'accord.
Là aussi. Et on va dire que à propos de Resident Evil 3, je pense qu'il y a un autre truc qui t'intéressera dedans. Mais bref.
Oui, oui, j'ai effectivement vu les cinématiques. Et pour ceux qui n'ont pas encore joué, on va leur laisser la surprise de découvrir. C'est
voilà.
Peut-être ça.
En plus, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, si tu veux, c'est vraiment de retrouver ce côté quand tu te retrouves face à un ennemi qui est un peu speed. Tu commences à stresser, quoi. Parce que là, tu te dis, oh putain, va falloir gérer le recul, etc. Alors, c'est beaucoup plus pratique que dans les anciens Resident Evil où, tu sais, tu devais courir dans un sens, puis pivoter pendant 3 heures, puis là, t'as quand même le fait que tu peux ouais. reculer ton personnage, tu vois, ce genre de choses. Mais il y a toujours l'idée que, tu vois, t'as un personnage super mou du cul qui doit gérer les ennemis un peu rapides en se plaçant bien, tu sais, en utilisant telle ou telle arme au bon moment, parce que le shotgun, il est quand même pratique, tu vois, parce qu'il permet de déstabiliser l'ennemi ou ce genre de choses. Voilà. Il y a vraiment l'idée, tu vois, que tu dois choisir la bonne arme en fonction de la situation, quoi.
Ouais, parce qu'en fait, la série Resident Evil, c'est jamais une série qui a fait peur, mais à ses débuts, c'était une série qui était stressante dans sa jouabilité et dans le système aussi d'inventaire des munitions et des ressources. Et là, d'après ce que vous dites, toi et Pixel, j'ai l'impression que ça fonctionne dans cet épisode-là, quoi.
Ça fonctionne, à mon avis, si tu joues en difficile. Parce que moi, je suis un vétéran de la série Resident Evil et j'ai eu un souci en normal, c'est que le jeu est trop facile. Économiser les munitions, tout ça, je sais faire. Donc, j'ai jamais eu, tu sais, la sensation d'être en manque, en fait, comme je pouvais avoir dans le premier. Mais ça, c'est parce que je suis habitué à la série, tu vois. Et je pense que si j'avais commencé direct en difficile, j'aurais eu moins cette sensation. Et un autre point où je critiquerais le jeu, c'est que tout ce qu'on a dit là, c'est valable pour les 3/4 du jeu, on va dire. Et puis, il y a un dernier quart où ça part en couille, en fait.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que, en gros, c'est un quart où ils ont confondu Resident Evil avec Fear. Donc Fear, je rappelle, hein, jeu d'horreur à la première personne, très orienté action, où il y avait une vraie intelligence artificielle, etc., où les gunfights étaient très intéressants et tout. Sauf que, en fait, quand tu joues à cette partie-là, où t'as en gros une tétrachée de zombies qui te tombe sur la gueule, ben, tu te rends compte que le jeu, il a pas du tout été designé pour avoir un gameplay de FPS fun, et que le fait d'avoir plein d'ennemis comme ça qui te tombent dessus, ça rend le jeu chiant, en fait. Parce que là, pour le coup, en plus, pour peu que t'aies joué à Fear, t'as la comparaison qui te vient immédiatement à l'esprit, tu vois. Et tu te rends compte que le personnage, oui, il est mou du cul. Oui, effectivement, oui. Et là, ça me casse les couilles, en fait, tu vois. Et là, le jeu devient pénible à ce moment-là, si tu veux. Et il a pas du tout été designé pour avoir des phases comme ça. Et c'est là que tu te dis que la fin, ils l'ont peut-être un peu torché.
C'est-à-dire que, en fait, arrivé vers la fin du jeu, ils sont repartis dans les travers action des derniers épisodes, sauf que le gameplay n'est pas du tout adapté à la jouabilité, en fait.
Voilà.
Ben, j'en pense la même chose. La première partie, très bien. Je vais pas dire parfaite, mais quasiment parfaite. C'était vraiment la prise de risque maximale pour Capcom. Et j'avais adoré, avec une très très bonne ambiance, bien sombre et bien glauque et bien dégueulasse. Et puis la deuxième partie, je me suis dit, mais attends, je suis dans Resident Evil, là. Je suis plus dans un jeu de survie. Je suis vraiment dans Resident Evil avec tous les travers que Capcom nous a donné dans ces dernières années avec les Resident Evil 5 et 6, quoi. Et c'était pas possible, quoi. Et ouais, je suis d'accord avec toi. C'est la deuxième partie ne fonctionne pas. Surtout que la deuxième partie, elle est en couloir. Alors que la première partie, tu fais quand même des allers-retours dans une sorte de gros hub. Tu as une sensation de liberté de mouvement, ce que tu n'as pas dans la deuxième partie.
Tu sais, t'as tous ces passages où quand tu trouves un objet, tu dis « Ah oui, ça va là-bas », tu vois, ce genre de choses. Ou t'as des énigmes qui viennent un peu varier le truc. Là, c'est vraiment « Va chercher ça, ouvre la porte, va chercher ça, machin truc ». Le level design hyper redondant, tu sais, ou les décors qui se ressemblent tous, en plus. Parce que moi, ce que j'adorais dans la première partie, tu vois, c'est que les décors étaient variés. C'est-à-dire que t'as beau être dans une maison, cette maison, elle a plein d'environnements qui sont différents.
C'est-à-dire que l'architecture de la maison est très bien faite.
Voilà,
c'est ça. Il y a beaucoup de profondeur, c'est-à-dire que les développeurs ont vraiment mis plein de petits détails partout pour vraiment te faire croire que la maison, elle est vivante. Sans mauvais jeu de mots, puisque c'est Resident Evil. Mais bon... mais t'as vraiment l'impression que t'as des gens qui vivent dans cette maison, tout a l'air vraiment vivant.
Et d'un seul coup, tu vois, on te transporte dans une espèce de zone immense, interminable, où tous les couloirs se ressemblent.
Tout est vide.
Où, en plus, je veux dire, le bestiaire du jeu, il est pas hyper varié non plus, donc ça devient super redondant quand tu dois tuer en boucle les mêmes ennemis, tu vois. Et le jeu tourne à vide là en fait. Pour moi dans ces phases-là, c'est vraiment la phase où tu dis ouais, vivement que ça finisse quoi, parce que là je commence à en avoir marre en fait.
Bah ouais, tu dis justement les ennemis, à part les êtres humains qui sont la famille, tu as des espèces de monstres zombies, on sait jamais vraiment ce que c'est, les fameux monstres noirs là, tout dégoulinant.
Il y en avait certains, ils faisaient un peu penser aux tyrans dans Resident Evil 1.
Voilà, il y a quatre modèles différents de d'ennemis noirs là. T'as les ennemis noirs standards, on va dire. T'as ceux qui ressemblent aux tyrans avec une sorte de gros bras, avec un bras extrêmement gros. On dirait qu'il y a une sorte de d'armure sur ce bras en fait pour te foutre un gros coup de poing dans la gueule. Il y a celui qui se déplace à quatre pattes, qui est très chiant, surtout en difficulté difficile, parce qu'il te met deux coups en difficile, tu meurs, hein, t'es crevé.
C'est un peu le Hunter de Resident Evil, c'est-à-dire voilà. Qu'il est super speed.
Voilà, il est super speed.
Plutôt le liqueur.
Ouais, plutôt le liqueur, ouais.
Ouais, plutôt le liqueur, oui.
Le seul moyen de le one-shotter, c'est une balle dans la tête, mais comme les armes, elles sont pas super précises, c'est compliqué. Et sans quoi, tu vois le gros, tu vois, le géant qui fait 2 mètres de haut, voire même plus que 2 mètres.
Et qui te gerbe dessus.
Et qui te gerbe dessus, qui est très chiant. Et qui est le plus résistant des quatre.
Alors, eux, je me faisais pas chier, hein. À part un qui est un passage du jeu assez tôt. Les autres, ils sont un passage où t'as les bombes sur toi. Donc, boum. Allez, salut. Mais bref, pour moi, ce jeu, vraiment, c'était un sans faute jusqu'à ce qu'on arrive à cette dernière partie du jeu qui est pas réussi du tout, quoi. Les ennemis sont cons comme leurs pieds. Enfin, dès que tu passes à un gameplay FPS un peu sérieux, tu te rends compte que c'est pas un bon FPS.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a des pseudo-monstres zombies, là, il y en a pas. Ils savent pas ouvrir de porte.
Bah, ils attaquent.
Ils attaquent. Et pour te cacher, t'as juste qu'à ouvrir une porte, à rentrer dans une pièce, fermer la porte, et les mecs vont pas ouvrir la porte.
C'est ça. Et il y en a même, des fois, ils dépop.
Ils dépop.
J'ai remarqué ça. Tu fermes une porte, tu ressors, ils ont disparu. Je sais pas pourquoi.
Ah, ils peuvent pas ouvrir les portes et tout ça, c'est un petit peu dommage, quoi.
Seuls les humains, en fait, peuvent ouvrir la porte. Et t'en as qu'un, en fait, qui ouvre vraiment la porte, quoi.
Et encore, tu peux le semer assez facilement.
Après, est-ce que c'est justifié par le scénario, parce que les zombies sont trop cons, ou bien...
Ah, le jeu te l'explique jamais vraiment pourquoi ils savent pas ouvrir de porte, quoi.
Ou même les défoncer, tu vois.
Ouais, parce que quand même, à la fin de l'introduction du jeu, t'as quand même un combat de boss où le boss, il te défonce les portes, quoi.
Au moins, il y a des personnages qui peuvent te poursuivre dans toute la maison, même si t'es caché derrière une porte, tu peux quand même te faire poursuivre à certains moments par certains personnages, ouais. On va dire un peu plus...
Ouais, mais c'est dans des passages assez scriptés du jeu.
D'accord.
Parce qu'ils vont pas te poursuivre, les ennemis humains te poursuivent pas tout le temps, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que tu as trigué, en fait, des passages du scénario, les ennemis humains vont plus revenir, en fait. Ils vont passer à la zone D'accord. suivante.
C'est un petit peu dommage que t'es pas... tout le temps ce sentiment de stress où genre tu te planques derrière une porte
bah,
et
tu l'as tout le temps jusqu'à ce que tu comprennes que c'est scripté en fait. Donc après c'est t'as ça. Plus vraiment peur.
Tu triches un peu avec les codes du jeu quoi, c'est comme dans les anciens Resident Evil où tu savais très bien que quand t'allais dans une pièce pour sauvegarder, t'étais sûr jamais de te faire attaquer par un zombie, c'était les zones sûres.
Bah les zones sûres aussi hein, les zones sûres il y a aucun ennemi qui peut rentrer dedans.
Ouais. Quelqu'un sur là aussi hein, genre tu sais t'as la petite musique calme pour te dire ouf, ah je suis bien là, j'ai pas envie de sortir. Voilà. Donc pour résumer, très réussi jusqu'à la fin qui a tous les travers, c'est-à-dire que le gameplay est pas réussi, l'ambiance part en couille, le scénar part en couille, l'ADN Resident Evil nanardesque qui revient faire coucou, on va dire.
Voilà. Les combats de boss sont bons.
Ouais, les combats de boss sont très réussis, sont très bons,
sauf le dernier.
Ouais, le dernier c'est une blague, c'est une formalité en fait. C'est vraiment pour dire ouais, on a mis un dernier boss quoi. Et encore pour moi, en fait, j'ai la sensation si tu veux que le vrai dernier boss c'est l'avant-dernier boss. Et en fait, le truc c'est que toute la dernière partie si tu veux, elle fait rajouter et rusher par rapport au reste.
Ça sent le rush hein, ça sent le rush la fin.
Très clairement. Bon, par contre, tout ce qui est partie technique
le doublage, VO ou VF.
Ouais, j'ai joué que la VO.
Voilà, moi j'ai joué en VO et en VF. Bon, la VO est parfaite. J'ai rien à dire. Les voix sont bien castées. Les doubleurs américains sont bien dans leurs personnages. Surtout que quand t'es en VO, les mecs ils viennent du sud, donc ils ont bien l'accent redneck sudiste qui colle bien,
ouais,
quoi.
Tout à fait.
La VF, alors les doubleurs sont des professionnels. C'est des voix qu'on a entendues partout. Il y a un truc qui m'a tiqué, c'est la voix française en fait du père de la D'accord. famille. Pour moi, elle est à des années-lumière en dessous de la voix américaine.
C'est le vieux pas dans le bayou, tu vois, il a son accent et tout, un peu rustique, etc. Franchement, je pense que c'est un personnage qui est très difficile à doubler, quoi.
Voilà. Et le doubleur français, en fait, il y arrive pas parce qu'il a pas une voix. En fait, le personnage dans le jeu, il doit avoir une 50aine d'années. Mmh. Et le doubleur français, lui, il a, je sais pas, il a pas changé sa voix. C'est, on n'a pas du tout l'impression d'avoir la voix d'une personne de, d'une 50aine mmh. d'années, mais beaucoup voilà. plus jeune. Et c'est une voix beaucoup plus fine, beaucoup plus nasillarde, en fait. Et je sais pas, ça marche pas. Pour moi, ça marche pas, mmh. qu'en fait. Mais sur quoi le reste des voix, c'est, ça fait le job. Mais la VO, elle est vraiment exceptionnelle, quoi.
Ouais. Sinon, pour toute la partie technique, alors moi je sais pas pour toi Pixel, mais alors il y a un truc qui m'a gêné personnellement. C'est très occasionnel, mais ça arrive par exemple, tu vois, qu'en ouvrant certaines portes, notamment pour sortir de la maison vers l'extérieur, j'ai d'un seul coup des chutes de framerate, mais de psychopathe. Et puis au bout de quelques secondes, le jeu il redevient normal. T'as l'impression ouais. qu'il cherche un truc en fait, si
ouais,
tu
ouais.
veux.
Alors moi j'ai eu quelques micro freezes. Mm. Mais alors il faut savoir, alors je sais pas si c'est pour toi aussi, mais tu vas me le dire, mais moi j'ai une GTX 770 avec 2 Go de RAM vidéo.
Alors 970 moi j'ai.
Moi j'ai une 770 et je peux pas tout mettre à fond, c'est impossible. Parce que j'ai essayé une fois de tout mettre à fond, mon jeu mmh. il tournait très très mal et au bout d'un moment, de façon assez aléatoire, le jeu plantait. Mais carrément il plantait. Ah. Et je me suis rendu compte que j'avais toujours le même code d'erreur. En fait, le code d'erreur, c'est que j'avais pas assez de RAM vidéo. Donc, voilà. Donc, en plus, ce qui me bouffait le plus, en fait, de ressources sur ma carte graphique, en fait, ce sont les ombres. Parce que t'as 4 niveaux d'ombre. Mmh. T'avais faible, normal, élevé et maximum. Et quand je mettais les 3 premiers, ça allait. J'avais généralement un framerate à 60 FPS. Et dès que je mettais maximum, boum, 5 FPS. Et je plantais tout de suite après. Donc,
Alors moi j'ai tout mis à fond, hein, ça tournait correctement, sauf que je t'ai dit les passages où tu sors de la maison et là inexplicablement le jeu se met à ramer quelques secondes, hein, ça dure pas longtemps, mais et une fois après, juste après ça le jeu il repart nickel, tu vois. Par contre, là où ça, il a un peu galéré, je pense, c'est au début. Tu sais, au tout début, la première scène où il fait jour, tu vois, où là, je pense que les ombres, ça lui a mis cher. Mais sinon, ça tourne à peu près correctement, quoi, on va dire.
Ouais, mais il faut un PC généralement ouais. assez puissant et avec une carte graphique relativement récente.
Ouais, parce que je précise ma config, hein, c'est quand même pas dégueulasse. C'est une GTX 970, c'est un 4790K et c'est 16 Go de RAM. Donc c'est une config qui date d'un an
c'est
et demi, deux ans,
en fait.
Tu vois.
Ta config, ça serait le minimum.
Et c'était le haut de gamme à l'époque, quoi. Donc.
Mais voilà.
Et
plutôt recommander,
de...
ouais. Recommander
de
plutôt.
Ralentissement.
J'ai eu des ralentissements, moi.
Ouais, mais c'est pas parce que à certains moments, par exemple, tu passais un checkpoint ou ce genre de choses là, ça ralentissait parce que le jeu faisait une sauvegarde automatique ou bien il chargeait un nouvel élément du décor qui
alors,
n'était pas.
Alors, il faut savoir qu'il y a un temps de chargement au début du jeu et
qui
après c'est que du streaming.
Ouais, c'est que du streaming.
C'est peut-être pour ça que le jeu rame à certains moments. En fait.
Alors ouais, je pense doit que certainement ça, streamer ouais. en temps réel les textures et donc moi j'avais quelques saccades de temps en temps. Mais j'ai eu aussi des ralentissements, donc j'ai dû me battre pendant quand même quelques heures pour essayer de trouver le bon compromis pour que le jeu soit le plus agréable visuellement possible sans que ça fasse planter mon PC. Et j'ai envie de dire que c'est un truc que je remarque de plus en plus souvent avec les jeux sortis de ces 2-3 dernières années, c'est que bah, ma GTX 770 elle est plus aux normes et je peux plus mettre les jeux à fond. Et quand je mets tout à fond, bah généralement ça plante maintenant. De toute façon, je vais être obligé de changer de carte graphique dans pas longtemps.
Mais sinon, le jeu est très joli, hein. Je tiens à le souligner quand même.
Le jeu
est très agréable.
Voilà.
Il fait actuel, quoi.
C'est vraiment un jeu de 2016-2017. C'est un jeu next-gen. C'est un jeu qui fait le taf. Il est pas exceptionnellement beau. Ça reste très sombre du début jusqu'à la fin.
Mais disons qu'il y a un souci du détail dans les décors qui est assez épatant, je trouve.
Voilà, il y a un souci des décors et
sauf à la fin où c'est voilà.
Les personnages sont quand même bien modélisés, les expressions faciales sont quand même, je veux pas dire bluffantes, mais elles sont vraiment pas mal.
Voilà,
c'est vraiment pas mal
très
du
réussi,
tout.
Ouais.
Et donc vous direz que le portage et PC est bien réussi quoi.
Non,
ils auraient pu mieux optimiser. Franchement.
Voilà. Attention, hein, je dis pas que c'est un mauvais portage non plus, mais je trouve que, enfin moi je trouve pas ça normal si tu veux avec une GTX 970 d'avoir des ralentissements comme ça, c'est pas normal non plus quoi. Après le reste du temps le jeu tourne et je pense que effectivement c'est des problèmes de streaming parce que moi ça ne m'arrivait que quand j'ouvrais certaines portes et je dis bien certaines portes Mais sinon, bon, le jeu est correct. Voilà, on va dire, voilà. Ni plus ni moins.
Il y a encore un autre truc, c'est qu'il y a le FOV, le Field of View, donc le champ de vision, qu'on peut régler jusqu'à 90 degrés sur PC. Alors sur console, je sais pas, j'ai pas testé. Mais le problème, c'est que, bon, si tu augmentes ton champ de vision, tu vas avoir plus de choses. Le problème, c'est que tes mains et tes avant-bras, eux, ils rapetissent pas quand tu augmentes le champ de vision. Donc tu as toujours l'impression, en fait, que tu ne vois rien. Puisque ton tes mains et tes armes que tu tiens, en fait, ne changent pas de taille, sont toujours gros. Donc t'as toujours un problème, en fait, de champ de vision dans le jeu.
Il y a des gens qui voulaient qu'il y ait un champ de vision plus élevé parce qu'ils ont des écrans, c'est 21/9, je crois. Enfin, tu sais, des écrans très larges. Et la résolution est pas du tout supportée par Capcom. Et la justification qu'ils ont donnée pour ça, c'est le fait qu'ils voulaient pas que les gens aient un angle de vue trop large, en fait, pour voir ce qui se passait sur les côtés, quoi.
Ouais, en fait, c'est comme si, entre guillemets, ils essayaient de d'avoir toujours un peu la main mise sur ce que tu pouvais voir et
voilà, c'est ça.
Pour pas que tu puisses gruger et essayer d'anticiper, quoi.
Ça, plus le fait qu'apparemment, ce qu'ils disaient aussi, c'est que s'ils augmentaient trop le champ de vision, en fait, il y aurait des objets qui seraient pas chargés quand les gens se retourneraient, tu vois, ce genre de choses.
D'accord.
Donc, sur plan technique, oui. Voilà, c'est en tout cas,
mieux faire.
C'est joli, mais peut mieux faire.
Ouais, ils auraient pu largement mieux faire.
D'après ce que t'as dit aussi, enfin, les quelques soucis que t'as eu tirant en ouvrant les portes, ça va, c'est pas des moments où...
Non, mais ça va, gênant, ça m'a pas gêné non plus parce que c'était que quelques secondes, un instant T, tu vois.
Voilà.
Ça aurait été pendant des phases d'action, pendant des trucs, là j'aurais beaucoup plus gueulé par contre.
Ouais, exactement, c'est ça que je veux dire, c'est il vaut mieux que ça arrive à ce moment-là que ça t'arrive en plein milieu, par exemple, les derniers chapitres où apparemment c'est côté action est très prononcé et que là le jeu se met à ramer et puis là non ça, là ça aurait
pour
été
le coup j'ai envie de dire que le jeu est tellement pauvre visuellement que ça aurait été difficile de le faire ramer, hein. Parce que franchement les décors se ressemblent tous, c'est un truc de fou. Pour conclure, mon cher Pixel, ce Resident Evil 7, est-ce que toi tu le recommandes malgré le fait que il a toujours un petit côté nanardesque qui peut agacer, et malgré le fait que cette fin, elle est ni fait ni à faire, quoi. Bah, parce que vraiment, moi, j'insiste, la fin, pour moi, elle est ratée, elle gâche un peu le jeu.
Ah, bah, pour
moi
aussi, la fin, elle est ratée. Enfin, pour moi, elle est ratée, et surtout qu'elle raconte, ils auraient pu en dire beaucoup plus. Je m'attendais à beaucoup,
c'est assez superficiel,
beaucoup
quoi.
Plus. Et là, la cinématique de fin est très superficielle. Mais alors, est-ce que je le recommande? Mais voilà, il faut le savoir, il faut quand même récapituler un peu, c'est que, on a quand même Resident Evil 7, qui est donc la suite de Resident Evil 6. C'est quand même Resident Evil 7. Donc, c'est un jeu, ça fait quand même des années que les fans de Resident Evil attendent. Capcom te le sort maintenant, avec une communication minimale. Et ils prennent un énorme risque en te le faisant à la première personne.
Ouais, parce qu'il y a plein de fans qui ont gueulé en disant « Oui, c'est pas Resident Evil », alors que pour moi, mais... Resident Evil 7 est bien plus un Resident Evil que ne sera jamais le 4. Et je fais exprès de prendre un bon épisode, tu vois. Resident Evil 4, pour moi, c'est celui qui a entamé le volet action de la série. Et il est à des allées-lumière par rapport au premier Resident Evil. Contrairement à ce Resident Evil 7, pour moi, qui est vraiment une relecture de Resident Evil 1 à la première personne, quoi. Sinon, dans l'esprit, dans les mécaniques, c'est Resident Evil 1.
Voilà. Voilà. Et... de rajouter aussi que le jeu est vendu à petit prix, en tout cas sur PC. Parce que moi, je l'ai acheté 30€ sur PC. En version retail, hein, en version physique.
Voilà.
Quand tu ajoutes tout ça, tu te dis, qu'est-ce que Capcom veut faire de sa saga Resident Evil? Qui est la saga qui leur a le plus rapporté d'argent, quand même, sur ces dernières années. Et s'ils y croyaient vraiment, ils l'auraient sorti pendant les fêtes de Noël, avec un gros budget marketing, et ils l'auraient vendu full price, quoi. Ils l'auraient vendu 60€ ou 70€. Et là, ils font exactement le contraire de ce qu'on attendait d'eux. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'ils voulaient, en fait, nous surprendre? Et là, je dis bravo. Ou alors, ils l'ont fait parce qu'ils pouvaient pas faire autrement. Mais force est de constater quand même que ça fait quand même 3 ans, bientôt 4, que Capcom se fait tout petit, en fait, dans le monde du jeu vidéo, qu'ils sortent des jeux qui marchent pas forcément. Le dernier Dead Rising 4, il a pas marché. Ce qui est bizarre, c'est que Dead Rising 4, il est sorti l'année dernière, pendant les fêtes, alors qu'ils auraient dû sortir Resident Evil 7 pendant les fêtes. C'est incompréhensible.
On attend toujours Deep Down, hein, n'est-ce pas?
Deep Down, dont ça fait 3 ans qu'on n'entend plus parler. Donc Capcom, ils sont tout petits. Ils sortent aussi un Street Fighter 5 incomplet. Juste pour dire, hein. Donc, je pense qu'ils sont en pleine restructuration interne et ils sont peut-être en pleine restructuration aussi pour leur jeu. Ils essayent de nouvelles idées, ils essayent de nouveaux concepts. Bah, Resident Evil 7, c'est la preuve qu'ils sont prêts à prendre des risques énormissimes pour une série qui est ultra rentable, enfin, qui a été ultra rentable pour eux, qui est connue dans le monde entier.
Il faut dire une chose, c'est que on a beau leur cracher dessus pour Resident Evil 6, c'est l'épisode de la série qui s'est le plus vendu.
Je crois que c'est le 5, en fait, qui s'est le plus vendu.
Ah, peut-être. Mais en tout cas, il s'est très très bien vendu. Voilà.
Ah oui, c'est très très
dans
bien vendu.
Dans tous les cas.
Moi, je pense que c'est le 4 avec tous les portages qu'ils ont fait après.
Peut-être. Dans tous les cas, ils étaient pas obligés, tu vois, de revoir complètement leur copie. Parce que les fans avaient beau gueuler, ça se vendait. Et ils avaient déjà gueulé sur Resident Evil 5, ils ont acheté le 6. Donc, pour moi, c'est simple. Si vous aimez la formule classique des Resident Evil, foncez sur ce jeu. Parce que pour moi, c'est un vrai renouvellement du jeu, parce que le changement de vue, c'est pas tout à fait le même gameplay quand même. Mais, dans l'esprit, dans les mécaniques, on retrouve les racines de Resident Evil, mais remise au goût du jour, quoi. Et pour moi, ça fonctionne à merveille. En plus, avec une ambiance au début qui est une ambiance de folie. Franchement, j'étais à fond dans le jeu pendant les trois quarts. Et même s'il se loupe à la fin, moi, j'ai envie de dire, il y a des risques, des fois, qu'il faut récompenser. Et ce jeu vaut vraiment le coup.
Eh ben, je dirais la même chose. C'est-à-dire que vraiment, la première partie, je pense qu'on ne cessera de le répéter dans cette émission, mais la première partie de Resident Evil 7 est vraiment la prise de risque maximum que Capcom pouvait faire. C'est récompensable, il faut la récompenser en achetant le jeu, en y jouant, parce que c'est vraiment envoyer un signal à Capcom pour leur dire continuez de prendre des risques comme ça, mais pas seulement avec Resident Evil, j'espère qu'ils prendront d'autres risques avec d'autres licences, mais faites extrêmement attention, parce que comme on vous l'a dit, et on vous le répète encore une fois, la seconde partie, c'est tous les travers de Capcom, tous les travers, tous les côtés nanars de série Z, mais qui te crache pas la gueule, mais tu sens le côté Capcom qui revient au galop, on te met dans des couloirs, avec du level design très limité, avec des graphismes très limités, avec des monstres partout, et avec de l'action tout le temps. Et avec une fin très, très, très pauvre. Très pauvre en contenu. Alors, on avait oublié de dire qu'il y avait quand même deux fins. Là aussi, il y a un truc qui blesse, c'est que le choix entre les deux fins se fait à la jonction entre les deux parties. C'est-à-dire que tu vas devoir faire un choix entre un choix A et un choix B. Mais ces deux choix n'influeront que sur la cinématique de fin. Ça n'influera pas sur les maps que tu vas découvrir.
Ouais.
Et ça influera très peu sur certaines cinématiques, en fait.
C'est ça.
Donc, c'est vraiment dommage. Ils auraient pu, genre, faire un choix A, tu vois, dans une direction, avec une fin donnée, et un choix B, tu vois, sur une autre map, avec une nouvelle fin. Ça aurait donné vraiment deux fins complètement différentes. Là, ça aurait été bien. Mais ils ont pas fait ça. Malheureusement.
Non, mais moi, je le dis comme je le pense, pour moi, en fait, la dernière partie, là, qui fout vraiment la merde, j'ai vraiment la sensation qu'elle n'était pas prévue au départ, parce que moi, quand j'ai joué, en fait, le boss qui est avant ça, j'avais vraiment la sensation de combattre le dernier boss du jeu, en fait. Et d'un seul coup, je dis « Ah bah tiens, c'est pas fini, ah bah cool !» Et puis, quand j'ai joué à cette partie-là, je me suis dit « Mais en fait, ça n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé avant, tu vois, enfin, ça avait vraiment le truc rajouté, quoi, en fait. » J'aimerais bien une petite souris chez Capcom pour voir comment ce truc a été mis là, quoi.
Bah peut-être qu'ils ont dit voilà l'ADN de Resident Evil, qu'est-ce que c'est, bah il y a 6 jeux plus le Code Veronica, donc on va essayer de prendre un peu des éléments de tous, et peut-être pour la fin ils ont dit bon bah les derniers Resident Evil c'était très très action, on va faire plaisir à tout le monde, aux fans, et on va mettre un côté un peu plus on tire sur tout le monde et voilà quoi.
Mais malgré tout le négatif qu'on peut en dire, je le recommande, enfin je pense
ah oui,
que
non,
c'est d'accord que
je le recommande,
tous les deux
on
le recommande
très très chaudement.
Non mais je vous rassure qu'on on comprend bien que vous étiez positif sur le jeu. Hein. Il y a juste la dernière partie qui vous a pas trop plu et quelques petits trucs par-ci par-là, mais on sent bien que le jeu vous a plu quand même. Hein.
Pour moi, c'est une chaude recommandation pour tout fan de Resident Evil classique. Voilà. Bon, allez, messieurs, je vous propose qu'on s'arrête là pour cette semaine. Ciao à tous.
Et salut.
Et jouez à Resident Evil 7. ou pas.